Chapitre 4 Mauvaise rencontre. Anna Morel se laissa reconduire à la cabane qu'elle habitait avec sa tante Catherine. Quand le recteur la quitta, elle paraissait apaisée. Il lui promit de la tenir au courant des moindres manœuvres de la Galatée et se retira sans soupçonner que le calme apparent de la jeune femme n'était qu'une courte éclaircie pendant une tempête. La journée s'était à moitié écoulée pendant les scènes que nous avons esquissées. L'ombre descend promptement en hiver au milieu des brumes de l'océan, et voici déjà la nuit. La cabane est sombre. La petite fille, fatiguée de l'excursion du matin, s'est endormie à la chute du jour. La tante Catherine, tout en filant sa quenouille, veille et berce parfois l'enfant qui agite ses petites mains. Puis elle quitte le berceau et s'approche du foyer pour y rallumer le feu de tourbe et préparer le souper. Peu de temps après, Anna, qui n'a fait que goûter du bout des lèvres un modeste repas servi par la bonne femme, Anna sentant renaître en elle avec la nuit un trouble insurmontable, se lève avec une sorte d'égarement, assure à sa tante qu'elle doit parler ce soir au recteur et sort précipitamment, sans vouloir rien entendre. Où va la pauvre insensée? Où dirige-t-elle ses pas au milieu des ténèbres? Ce n'est point dans la direction du presbytère. Peut-être ira-t-elle sur la falaise. Mais à quoi bon? Il fera bientôt nuit noire et ses yeux pourront à peine voir le reflet du ciel sur la mer. N'importe, elle court sur le rivage, ce reflet lui suffira. Ainsi Anna, cédant à une impulsion irrésistible, parcourut les grèves sans trop savoir ce qu'elle faisait. Du reste, ses promenades nocturnes n'étaient point rares pour elle depuis l'absence de son mari. Elle connaissait parfaitement tous les détours, tous les caps, tous les promontoires de la côte. Enfant de la grève, elle se riait de ces obstacles comme du vent et de la tempête. C'est pourquoi elle marchait à l'aventure, les yeux fixés sur les flots obscurs, dans le seul espoir de voir au loin briller une lumière consolatrice. Cependant, il arriva que, l'obscurité étant devenue complète, Anna Morel fut obligée de s'arrêter au milieu d'un dédale de grands rochers qui se dressaient comme des fantômes géants autour d'elle. Impossible de distinguer les objets à la distance de 4 ou 5 pas. Partout des ravins, des pierres, des galets qui roulent sous les pieds, de noirs récifs que la mer couvrira dans peu de temps, et à moins d'une demi-encablure, les flots qui montent déjà en roulant sourdement sur le sable. Mais, après avoir bien examiné la silhouette des falaises découpées sur le ciel, et s'être orientée à leur vue, elle se remit en marche d'un pas rapide. Tout à coup, une exclamation, poussée par une voix vibrante, retentit dans les cavernes du village rivage. Cette voix était sinistre. Oh, ce n'était pas l'appel d'un ami. L'infortunée, frappée par un pressentiment subit, se laissa tomber sur la terre et, se traînant à genoux avec cette force que la peur de nos plus faibles, elle espérait gagner l'abri de quelques grottes retirées avant que le nouveau venu eût découvert sa présence. « Qui va là ?» s'écria d'une voix rauque un homme en s'avançant à pas de loup. « Halte là, mille bombes ! Oh, c'est une femme qui veut se faufiler ! Ah, tu es venu ici pour nous espionner ! Qui es-tu de tonnerre ? On y voit à goutte ! Alors, relève tes vergues et accoste au lieu d'échouer sur le sable. » À ces mots, le bandit se mit en devoir de fixer sur le haut du récif une lanterne qu'il alluma aussitôt. Puis il poussa une sorte de hurlement sauvage accompagné d'affreuses imprécations. « Ah ah ah, mille tonnerres » vociféra-t-il. « Je la tiens. Elle est venue d'elle-même se jeter à la côte. » « Allô, ma jolie corvette, Changez d'habitude, ne gémissez pas bon si peu. Je suis pas un mangeur d'hommes, je pense. On est bon enfant ce soir. Il ne tient qu'à vous de vous voir leur bel lit. Ayez pitié de moi, encore fat, murmura la pauvre femme. Pour l'amour de Dieu, laissez-moi partir. Partir, veuve Morel, quittez tout de suite un vieil ami, oh, vous n'y pensez pas. Alors, asseyez-vous gentiment et causons de nos petites affaires. Je n'ai pas le cœur à causer. Il est tard, laissez-moi. Ou j'appelle au secours, je jette des cris. Bon, c'est inutile. Aucun cri ne pourrait sortir d'ici, franchir ces murs de roche. Allez, calme-toi donc, ma petite, et cause aux raisons. Un moment atterré, Anna Morel parut se résigner. Oui, se résigner à peu près comme la perdrix blessée qui cache la tête sous son aile à l'approche du vautour. Le bandit se plaça devant elle, les bras croisés, et continua en ricanant. Ha, 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 c'est drôle tout de même. Moi, j'aurais quasiment donné un doigt pour lui dire un mot, un tendre mot, là, face à face, et c'est elle-même qui m'en procure l'occasion. Je suis sûr et certain, Anna, que tu es venu me chercher, hein? On a donc conservé un brin d'affection solide pour son denté. Et puisque Julien se laissait affaler. Taisez-vous, Cantemat, s'écria la jeune femme en bondissant comme si un ressort l'eût enlevé au-dessus du sable où elle gisait. Taisez-vous, ne parlez pas de mon mari, je vous le défends. Là, là, voyons que diable, on peut s'entendre entre amis, et nous en sommes. Et puis tu ne voudrais pas m'empêcher de te dire combien je regrette ton Julien, un si bon matelot. Qui s'embrasserait mort de faim autrefois, hein? Faut se souvenir un peu et pas faire l'ingrate. Ce cruel dialogue n'était entrecoupé que par les gémissements de l'épouse frappée au cœur et par le sourd battement des vagues. Mais je suis bon enfant, moi. Je vaux mieux que vous autres, y compris tous les madecs et même les tanguis de Watt. De vieux gamiers que je coulerai un jour ou l'autre, c'est sûr. Je suis pas sans cœur, moi. Et j'entends pas que tu restes veuve. Voyons, tout de suite, tonnerre, tu vas le jurer. Y a pas à balancer, mille et mille tremblements. Jamais, s'écria Anna, jamais. D'ailleurs, vous avez menti. Julien exige, je le sais, je le sens dans mon cœur, laissez-moi. En achevant ces mots, elle prit un élan désespéré et s'élança parmi les pierres et les rochers, avec une rapidité si imprévue, que Kortman, ayant vent qu'il pût soupçonner, songer à la suivre, se demandait par où elle avait passé. Cependant, après avoir poussé les jurements les plus effroyables, le marin, revenu de sa stupeur, allait sans doute se mettre à la recherche de la victime qui venait de lui échapper, lorsqu'un sifflement prolongé se fit entendre à une petite distance sur la mer. « Bon, se dit Cornfat, je crois que cette nièce allait me faire oublier les affaires. » Et répondant lui-même au signal par un sifflement pareil, il s'assit tranquillement sur une pierre à la place qu'Anna avait occupée. Alors une chaloupe vint accoster un peu au-dessous du récif où Cornfat avait placé son fanal. Un homme débarqua et les deux complices s'étant rencontrés sur la grève, la conversation fut bientôt engagée entre eux. Nous en indiquons les principaux passages, bien qu'elle eût lieu en grande partie dans une barque de langue étrangère. 50 guinées, yes. Nous donner à vous 50 guinées. J'en veux 100, dit Kaufmann. C'est pas trop pour une belle frégate comme cette satanée Galatée. « Je veux 100 guinées, elle n'est pas liard de moins. »« Oh, ça va être beaucoup trop fort. »« Allons, vieux goddam, vous étiez plus généreux la dernière fois que nous avons causé là-bas, sur la pointe. »« Mais allez, n'importe, top pour 60. »« 1000 bombes, c'est pas trop pour risquer la cravate de chambre. Hein, »« qu'est-ce que vous dites ?»« Moi, rien, je réfléchissais. » C'est drôle, vous l'avez entendu comme si quelqu'un marchait par là, sur les rochers au-dessus de nous. Écoutez. Non, on n'entend plus rien. C'est le vent qui roule des cailloux sur la falaise. Alors, tapez-vous pour 60 guinées. Vous cherchez beaucoup trop fort pour piloter une corvette, mais j'accepte. Et vous payez apparemment? Bien, sur la moitié, voilà, comptez. L'autre moitié à bord de l'Atlantée. Puis l'anglais continua à voix plus basse de compléter les instructions nécessaires pour accomplir l'expédition convenue. Il s'agissait, disons-le en peu de mots, de piloter quelques navires anglais par un temps et une nuit convenables dans la passe où la Galatée s'était réfugiée afin de l'écraser sous le nombre de lamariner aisément. Telle était la nouvelle trahison que méditait le Nantais. La conférence étant terminée, les complices se séparèrent. La nuit était déjà bien avancée et le vent commençait à souffler avec violence. L'officier anglais regagna la chaloupe qu'il avait amenée au moyen du signal de Korfman, tandis que celui-ci se dirigeait vers la baie où les embarcations de l'île de Wight se trouvaient à l'ancre ou échouaient sur le sable. Chapitre 5. Prêtres et bandits. Cependant, la tante Catherine, ne voyant pas sa nièce rentrer au logis, commença de compter les minutes avec une inquiétude croissante. Le feu s'éteignait peu à peu sur le foyer. L'île était silencieuse au dehors, sauf le bruit des lames qui roulaient sur les grèves, et l'on conçoit aisément que dans de telles circonstances, l'inquiétude la plus légitime se change bientôt en une véritable angoisse. Cela ne tarda pas à se produire dans l'esprit de la vieille femme, si dévouée à la malheureuse qu'elle attendait en vain. Elle quitta donc sa place auprès du foyer, rangea son rouet dans un coin, s'assura que la petite fille dormait paisiblement, et après avoir écouté une dernière fois contre la porte pour essayer de percevoir au milieu du bruissement des rafales l'écho affaibli de quelques pas lointains, elle sortit avec précaution de la cabane et se dirigea vers le presbytère. Le recteur n'avait point vu Anna de toute la soirée. Il ne put se défendre de partager les inquiétudes de la bonne Catherine, et tout en la consolant de son mieux, il la reconduisit chez elle. Puis, sans faire attention aux vertes remontrances de Barbane, qui courait après lui dans l'espoir de le retenir, M. Tanguy alla explorer les falaises où Anna se rendait le plus souvent depuis le retour de la Galatée. Le prêtre ne tarda pas à rencontrer la jeune femme, qui s'enfuyait éperdue, se croyant toujours poursuivie par son lâche persécuteur. Elle ne consentit à s'arrêter qu'aux supplications réitérées de M. Tanguy, et ne cessait de s'écrier d'une voix étranglée par la peur: Sauvez-moi, sauvez-moi, le voilà, l'entendez-vous, il vient! Mais de qui parlez-vous, mon enfant? Lui dit le recteur. Personne ne vous menace, apaisez-vous. Songez que je suis là. Ne me reconnaissez-vous pas? Ce ne fut qu'au bout de quelques minutes que la pauvre épouvantée parvint à vaincre son effroi. Maintenant que vous voilà à peu près remise, continua-t-il, mais dites-moi de quoi vous parliez tout à l'heure. Qui vous poursuivait? N'est-ce pas une fausse alarme? Voyons, Anna, répondez sans crainte. Une fausse alarme, dit-elle, une fausse alarme. Plutôt au ciel que cela fût. Mais je l'entends encore me dire que Julia. Oh, c'est affreux! Oh, je devine que c'est ce méchant matelot qui vous a effrayé ce soir par ses menaces et ses faux rapports. Ah, c'est peut-être que le Nantais. Lui-même, cet angle. Il veut la mort de mon mari, il le fera périr. C'est sûr, si le malheureux malheur n'est pas déjà arrivé. Mais c'est impossible, mon enfant. Vous oubliez que je veille sur mon troupeau. Le loup ne sera pas le plus fort. Ayez confiance, et dites-moi bien vite ce qui s'est passé entre vous et Kaufmann, car votre tante se meurt d'inquiétude à cause de votre absence. Anna Morel fit en peu de mots le récit de son aventure, sans omettre de parler du fanal, puis d'un coup de sifflet venant du large et d'un bruit d'esviron qu'elle avait cru entendre au commencement de sa fuite. M. Paul comprit que Korfmatt n'était point venu sur cette falaise écartée pour surprendre la femme de Julien, mais bien dans le but de trôner avec des inconnus, des ennemis sans doute, quelque complot, quelque nouvelle perfidie. « Oh, pardonnez-moi, monsieur le recteur, » dit Anna au moment de s'éloigner. « Ayez pitié d'une pauvre folle, car je suis folle de l'anxiété qui m'accable à cause du sort de Julien. Ne pouvant le voir, lui, je voulais du moins reconnaître la lumière de son vaisseau. Oh, je suis bien malheureuse. » « Je le sais, mon enfant, et je partage vos chagrins. Mais prenez courage. Mettez vos peines dans les mains de Dieu. Il sauvera votre mari et vous le rendra. » À présent, allez en paix. Puis dès que vous aurez rassuré votre tante, faites éveiller Madec et le père Lison, et dites-leur de se rendre en toute hâte auprès de la grande roche qui domine le port. Je crains d'avoir besoin de leurs bras. Adieu. » Le vent augmentait de violence et soulevait déjà les lames. Une pluie froide commençait à tomber. Mais qu'importait à M. Tanguy? Les obstacles, loin de l'abattre, donnaient du ressort à son âme vaillante et dévouée. Son corps, usé par l'âge et les travaux, mais vivifié par la charité, obéissait à l'ardeur de son zèle et se trouvait capable d'endurer toutes les fatigues, toutes les souffrances, de tenter toutes les entreprises qui lui semblaient utiles ou nécessaires au bien d'autrui. M. Tanguy venait de se mettre en marche dans la direction du port lorsqu'il crut entendre rouler les galets sur la grève au-dessus de lui. Il s'arrêta derrière un rocher et se mit en observation. Quoique l'obscurité fût complète, il distingua bientôt l'ombre d'un homme qui tranchait d'un peu sur la teinte plus pâle du sable sur lequel les flots roulaient à chaque instant. M. Paul laissa passer le rôdeur sans bouger de place, et dès que celui-ci eut disparu du côté du petit port, le prêtre dirigea ses pas à la suite de l'inconnu. La nuit était si sombre, les rafales faisaient tant de bruit en mêlant leur sifflement au battement des flots soulevés, qu'il était bien difficile à une certaine distance de se rendre compte de ce qui se passait. Cependant, de temps à autre, le recteur, dont les yeux exercés perçaient les ténèbres, apercevait son homme allant et venant au milieu des barques échouées dans le fond de la baie. « Mon Dieu !» se dit-il, n'y pouvant plus tenir, « que mes braves habits tardent à venir !» « Oh, n'importe, il faut que je sache ce que fait cet homme. » Et le voilà rendu sur le bord de la mer. « Que faites-vous là ? » s'écria-t-il d'une voix forte, en reconnaissant le marin, qui, les pieds encore dans l'eau, venait de pousser au large une embarcation. « Que faites-vous ? Répondez !»« Oh, c'est vous, recteur !» dit le matelot à moitié ivre. « C'est vous qui passez vos nuits à espionner les gens. Moi, je fais ici ce qui me plaît, ça vous regarde pas. »« Vous avez fait un mauvais coup, Korfmatt. Vous avez voulu perdre une embarcation, par vengeance peut-être. Celle de Médec ou celle du pauvre Lison? Savez-vous que c'est une lâche action, cela ?»« Ça m'est bien égal à moi, il y aura d'auteurs. Rangez-vous, allez, laissez-moi passer. » dit le bandit furieux en brandissant une gaffe. « Oh, je ne crains rien, Korfmatt. Je n'ai jamais tremblé devant les hommes, vous le savez. Et puis vous n'oseriez pas frapper un vieillard, un prêtre. »« Un prêtre, et pourquoi pas, s'il veut me barrer le passage ?»« Parce que ce prêtre vous conseille de ne pas ajouter un crime à une action déjà trop condamnable. »« Oh, oh, la belle affaire !» vociféra le matelot. « Est-ce ma faute à moi s'ils mettent de mauvaises amarres à leur chaloupe ?»« Oh, vous ne me donnerez pas le change, misérable. C'est vous qui avez coupé la mare et poussé au large, c'est vrai, je m'en vante. Et de plus, j'ai donné plus de 10 coups de hache dans les bordages de ce vieux sabot, où les coqs peuvent déjà s'amuser. Ah, allez, place, place aux braves Nantais. Mais malheureux, revenez à vous. Place, vieux cormoran, ou bien venez me servir un coup à votre cambuse. Sinon, je vais y mettre le feu, après avoir démoli tous les jouyous des Oatais. Vous ne passerez pas, s'écria M. Tanguy, dont le grand cœur frémissait. Vous ne passerez pas, je vous arrête. Je vous arrête comme coupable de la perte d'une chaloupe, et de plus, pour complot et trahison. Oui, trahison, car vous avez allumé un fanal sur la pointe de l'île, et l'on sait que les ennemis ont accosté. Le Nantais fut d'abord un peu déconcerté de voir que le recteur avait découvert en grande partie les machinations qu'il comptait tenir secrètes. Il parut éprouver un moment d'hésitation en présence du courageux sang-froid dont le prêtre venait de faire preuve. Mais cette impression ne fut que de courte durée. Il reprit en peu de temps son audace habituelle et s'écria avec une grossière ironie « Oh, vous prétendez m'arrêter, vous corbeau de malheur, et vous croyez apparemment que Cortman va tout bonnement se laisser bloquer comme un novice. Ah, recteur, vous voulez rire, mais ça ne prendra pas. Allez, assis, vite au large. » « Non, 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 vous ne partirez pas, répondit M. Tanguy, en se plaçant entre Cortman et la mer. Vous ne partirez pas, vous dis-je. Vous répondrez de vos actions. Nous saurons ce que vous avez comploté, et nous... » Ces paroles furent interrompues par la plus infâme agression que puisse commettre un homme égaré. Korfmatt osa porter la main sur le ministre de Dieu qu'il frappa rudement en pleine poitrine. Il allait sans doute, dans sa fureur, pousser dans la mer le vieillard intrépide qui osait lui résister, quand tout à coup deux ombres parurent sur la grève à moins de 10 pas de Korfmatt, qui luttait en faisant face à l'océan. Puis 4 secondes après, Korfmann renversé roulait sur le sable humide, tandis que le recteur suppliait les amis qui venaient de l'arracher aux mains de ce traître de ne pas frapper inutilement un tel misérable, que la justice allait enfin punir comme il l'avait mérité. Le Nantais fut solidement garrotté en 1 minute, malgré sa résistance et ses jurements, par les deux marins venus si fort à propos. Puis il fut aussitôt traîné ou poussé du côté de la cambuse, dans laquelle, cette fois, il n'entra pas en maître. Là, renfermé dans un arrière-cabinet sombre et garni de solides ferrures, il put réfléchir à son aise sur sa situation et meurtrir contre les murailles ses poings qui pour le moment semblaient incapables de l'arracher au sort que sa méchanceté lui avait préparé. Chapitre 6. Évasion. Si nous écrivions un roman avec tous ces détails et ces longues péripéties, ménagées à plaisir, nous pourrions faire de nombreux chapitres avec ce qui nous reste à dire. Nous dirions ce qui se passa dans la prison de Korfmatt, puis à bord de la flotte anglaise où l'on attendit le traître pendant 3 jours. Nous dirions comment, les vaisseaux anglais ayant été contraints de prendre le large, sauf une belle corvette, l'Atalante, qui se perdit sur un banc. Nous dirions comment la Galatée profita de cette circonstance en gagnant le port de l'Orient juste à temps pour ne pas sombrer en pleine mer, et comment Julien Morel revint ensuite à l'île de Wight, où sa pauvre femme, presque folle de douleur, n'espérait plus son retour, car on avait cru que la Galatée s'était perdue avant d'entrer dans la rade. Nous ferions aussi l'intéressante peinture du tribunal, présidé par notre vénérable juge le jour de la condamnation de Korfmatt, et nous aurions un chapitre saisissant à consacrer aux efforts désespérés du bandit pour s'évader du cachot au milieu d'une nuit ténébreuse, au bruit strident des rafales qui couvraient celui des pierres arrachées et des planches rompues, etc., etc. Ce croquis sommaire étant à peu près indiqué, reprenons d'une manière aussi brève que possible le fil de notre récit. C'était, nous l'avons dit, par une nuit ténébreuse. Le vent soufflait de l'ouest avec une violence peu ordinaire. Un homme s'avançait à pas de loup sur la grève du côté de la pointe de l'île, ne quittant l'abri d'un rocher pour se rendre à l'autre qu'après avoir écouté attentivement et regardé de tous les côtés. S'arrêtant à chaque minute et tressaillant au moindre bruit, soit que des courlis effrayés prissent leur volée avec des cris plaintifs, soit que des débris détachés de la falaise abrupte par les coups répétés du vent de la mer vinssent rouler sur le sable au pied du fuyard. C'est lui, c'est le condamné qui a brisé ses liens et court à de nouveaux méfaits. Il sonde, il interroge l'océan, cette rade neutre du monde, ouverte aux héros, aux coupables, et semble le menacer de sa fureur. La mer était déjà grosse vers le milieu de la nuit. Les hautes lames du large arrivaient de temps en temps à la côte et pouvaient faire présager une tempête. Aussi le misérable évadé commençait-il à s'inquiéter. Que faire ? Se disait-il, mille bombes. Dire qu'il ne passera pas une chaloupe à la pointe. Pourtant, il doit être bientôt 3 heures du matin, et d'ordinaire, les bateaux de Belle-Île doublent la pointe du Watt. Oh, 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 quel tour je l'aurais joué, hein. On dira, c'est drôle, Nantais s'est envolé comme un goéland par le toit de la Cambuse. N'importe, m'est avis qu'il serait temps de filer. Mille millions de diables, hein, qu'est-ce que c'est ? Les lames qui clapotent apparemment. Mais non, tonnerre, mais c'est un bruit d'aviron. Oh oui, ça rapproche. Ohé, ohé, là-bas. Ohé, répondit une voix sur la mer. Que voulez-vous? Passage à bord, camarade. Impossible de doubler le cap. C'est que vous avez pris un mauvais bord. Virez tout de suite. Laissez courir un demi-mille au large et arrivez. Le remous vous portera tout seul dans l'anse au-dessous de la pointe. C'est bon, camarade. Il paraît que vous vous y connaissez. Un peu, garçon. Alors, y êtes-vous? Larguez la misaine et revenez au plus près. Quand je serai à bord, je vous tirerai de presse. Le bruit des houles et l'éloignement ne permirent pas aux passagers de saisir tout ce que Korfmatt avait dit, mais ils en comprirent assez pour exécuter à l'aide de leur instinct maritime les manœuvres indiquées par le Nantais. Tout se passa comme il l'avait prévu. Un remous favorable amena l'embarcation dans l'anse où Korfmatt s'était rendu à l'avance, et dès qu'il eut sauté à bord, il se mit au gouvernail et commanda de faire voile. L'embarcation était montée par 3 pêcheurs d'Oedic, le père, le fils, âgé de 14 ans, et un vieux matelot. Alors le père, patron de la chaloupe, après avoir, comme disent les marins, mesuré la couleur du temps, jugea qu'il était prudent de rester à terre pour le quart d'heure. Mais un quart d'heure, c'était un siècle pour le fuyard qui croyait à tôt moment voir pointer au-dessus de la falaise blanchâtre la noire silhouette du recteur. Un quart d'heure, c'était pour le bandit la perte ou le salut. C'est pourquoi, voyant l'hésitation du patron de la chaloupe, Korfmatt jura qu'il n'y avait pas de danger. Puis, sans attendre la réponse de ses compagnons, il poussa vigoureusement au large au moyen d'une gaffe qu'il avait saisie par précaution. La chaloupe était bien construite et solide à la mer. Korfmatt gouvernait avec autant d'adresse que de détermination. Aussi le premier mille se fit-il sans avarie. Mais quand on eut doublé le cap et que l'embarcation se trouva plus exposée aux grandes houles du large qui, poussées par un vent affreux, roulaient avec une fureur dont la violence augmentait à chaque instant, il devint impossible de méconnaître l'approche d'une tempête. En vain, le patron de la barque fit-il remarquer au pilote tous ces signes avant-coureurs d'une bourrasque inévitable. En vain, le supplia-t-il, de gouverner sur le petit port de Watt pour y chercher un abri. Le Nantais, l'œil hagard, la bouche frémissante, la main crispée sur la barre du gouvernail, avait l'air de ne rien entendre et continuait à tenir le cap sur la haute mer, malgré les vagues énormes qui soulevaient la chaloupe à une hauteur inquiétante. Une seule lame reçue par le travers et tout eût été perdu. Mais Kaufmann fendait les houles avec une étonnante habileté, celle que donne le désespoir. 2000 se firent ainsi. Mais il devenait évident qu'on ne pouvait aller plus loin sans sombrer. Le patron, poussé à bout et voyant son autorité méconnue, perdit patience à la fin. Kaufmann, cramponné au banc de l'arrière, comme à sa dernière planche de salut, refusait énergiquement de quitter le gouvernail, et ce ne fut qu'après une lutte désespérée contre les trois hommes qu'il avait vainement supplié, qu'il abandonna la barre. Il fut jeté de force et attaché dans le fond de la chaloupe. On s'orienta aussitôt dans la direction du port de Watt. Oh, ce devait être bien plus difficile, malgré le jour qui perçait lentement entre d'énormes nuages. Le vent semblait augmenter encore et soufflait sans cesse par rafales, variant de l'ouest au sud-sud-ouest. La mer devint plus houleuse, les lames se succédaient plus hautes et menaçaient à chaque instant de submerger la chaloupe, déjà trop chargée d'eau. Alors, en guise de canon de détresse, le vieux matelot fit feu à plusieurs reprises au moyen d'un mousquet d'abordage, tandis que les autres agitaient dans l'air des débris de pavillons pour demander du secours. Chapitre 7 Sur la mer. Un peu avant le point du jour, on s'aperçut de la fuite de Korfmatt évadée, comme nous l'avons dit, par le toit d'un appentis adossé à la cambuse. Madec, chargé spécialement de la surveillance du prisonnier, trouva la cage vide en lui apportant sa nourriture et remarqua d'un coup d'œil la trouée pratiquée par le bandit dans le plafond garni de planches et dans la toiture de ce réduit. Il courut en toute hâte au presbytère, et quoique le recteur fût souffrant depuis la nuit où Korfmatt l'avait frappé, Madec crut devoir l'informer de cet étrange événement. « On rassemble tous les meilleurs matelots de l'île, » dit aussitôt le patron en soutane. « Préviens Julien Morel, bien qu'il ne soit de retour que d'hier. Il est vaillant, bon pilote, et j'aurai sans doute besoin de lui. Il ne navigue pas ce matin, et c'est pas bien étonnant, mais je vais le remorquer. Suffit, je connais mon gabier. Tout paraît à prendre le vent. » « Allons, » dit le recteur, en sortant avec précipitation, sans canne, sans chapeau, malgré les vives douleurs qu'il ressentait et les supplications de Barbane. « Venez me rejoindre dans la baie, sans perdre une minute. » Au moment où M. Tanguy arrivait sur la falaise, on venait d'entendre au large le premier coup de mousquet tiré de la chaloupe en détresse. La mer était si grosse, les lames si hautes, qu'on n'apercevait pas encore le petit bâtiment perdu au milieu du brouillard et de l'écume des flots. Plusieurs coups de feu retentirent ensuite, et l'horizon, s'étant légèrement éclairci vers les 7 heures du matin, on put distinguer les signaux que l'équipage agitait sans cesse. Tous les hommes sur lesquels on pouvait compter à bon droit se trouvèrent bientôt réunis. Julien Morel aussi venait de se rendre à l'appel du vieux prêtre, cette fois transformé en amiral. On tint conseil sur la falaise. M. Tanguy envoya 5 ou 6 matelots battre les grèves, les rochers et les cavernes de la pointe, dans le but de s'emparer du prisonnier évadé. Il garda auprès de lui Madec, Julien et 2 autres, puis commanda de parer la meilleure embarcation du port afin de porter secours aux malheureux que le naufrage menaçait. En quelques minutes, tous les préparatifs de ce dangereux appareillage furent terminés. Il était impossible de se dissimuler l'imminence du péril. Julien lui-même, le brave pilote, en voyant la hauteur des lames et peut-être, disons-le, à la pensée de la chère famille qu'il n'avait revue qu'un jour, Julien sentit sa main trembler sur la barre du gouvernail. Mais cette impression ne dura qu'un instant. M. Tanguy paraissait si rassuré, si intrépide. Il donnait ses ordres avec tant de calme et de sûreté que sous les yeux d'un tel amiral, le courage serait revenu au cœur des moins braves. On continua donc à tenir vaillamment le cap au large, dans la direction où l'on avait remarqué les derniers signaux. « Courage, courage, mes enfants !» criait le recteur. « N'ayez pas peur, Sainte-Anne est avec nous !»« Là, à tribord, un signal, je l'ai vu !» s'écria un des matelots. « Souk est dur, garçon !» dit Madec en donnant l'exemple. « Cargue la misaine, borde le foc, allons, ne le mollissons pas !» Alors on entendit distinctement une voix qui hélait un peu de distance. « Voilà la chaloupe !» dit aussitôt M. Tanguy. « Vire un peu à tribord, bon, maintenant. Allez, lancez-leur les bouées, les amarres. Défiez, défiez l'abordage !» Mais que se passait-il donc à bord de la chaloupe désemparée? Pourquoi ces malheureux, au lieu de se prêter à la manœuvre et de saisir les amarres qu'on leur a tendues, paraissent-ils plus occupés de se quereller et même de se battre? Oh, la terreur les a sans doute rendus comme fous. Non, non, ce n'est point là le motif de leur étrange conduite. Nous avons dit que Kaufmann, vaincu, avait été attaché dans le fond de la barque. Mais quand le bateau sauveteur parut tout à coup, à moins d'une encablure, quand surtout les marins de Hoedic, sur le point de se jeter à la nage, eurent acquis la certitude qu'on venait à leur secours, ils poussèrent tous les trois des cris d'appel et de reconnaissance. Kaufmann avait réussi à se détacher. Alors le misérable, ayant reconnu M. Tanguy dans l'embarcation peu éloignée, s'élança comme un furieux pour saisir une gaffe dont il voulait frapper ses compagnons. Cette querelle pouvait avoir les conséquences les plus déplorables au milieu d'une tempête en venant à l'encontre de toutes les manœuvres nécessaires pour opérer le sauvetage. Elle pouvait entraîner la perte des deux embarcations à la fois. Mais le bandit se rendit justice à lui-même. Tandis que les marins faisaient tous leurs efforts pour désarmer le Nantais, auquel, par humanité, ils hésitaient à donner un coup mortel, celui-ci aperçut dans l'autre barque, en ce moment très rapproché, une figure qui le frappa d'une sorte de commotion électrique. « Julien ! » s'écria-t-il. « Julien, oh, j'aurais ta vie avant qu'ils aient la mienne !» À ces mots, aussi prompts que l'éclair, il monta sur le bordage de la chaloupe et, sa gaffe à la main, il s'élança par un bond prodigieux qui l'eût porté dans le bateau de M. Tanguy si une forte houle ne l'eût soudainement éloigné. Ainsi, Kaufmann tomba dans la mer. Une fois, on vit ses bras sortir de l'eau et s'agiter convulsivement. Comme on le savait excellent nageur, on croyait le voir revenir à chaque instant à la surface. Mais il ne reparut point. Seulement, à la place où il venait de disparaître, les marins, penchés au bord des embarcations, purent distinguer sur l'écume des houles de légères teintes de sang, et ils pensèrent que le coupable, frappé dans son dernier forfait, s'était brisé le crâne contre la quille du bateau. « Prions pour lui, » dit le recteur ému, « que Dieu lui fasse miséricorde. » Maintenant, ajouta-t-il en domptant sa souffrance, songeons à sauver les vivants et que Sainte-Anne nous soit en aide. Le retour à l'île de Wight présenta les mêmes dangers que le départ, et on dut en faire bien davantage si le vent s'était un peu apaisé. Nous n'essaierons pas de peindre le tableau de la mer en fureur. Les trois marins noédiques furent contraints d'abandonner leur chaloupe, qui sombra sous leurs yeux quelques moments après que M. Tanguy les eut reçus dans la sienne. Enfin, le bateau sauveteur, porté par des lames encore terribles, entra dans le petit port de Wight. Toute la population de l'île était là pour recevoir et acclamer son protecteur, pour les jours duquel elle venait de trembler. Trembler ou non, ne parlons pas ainsi. Nul ne tremblait en voyant M. Tang exposé sur la mer. Il l'avait si souvent affronté et vaincu. Il avait opéré tant de sauvetages plus étonnants, résisté à tant de tempêtes, que les marins de Wight étaient persuadés que nouveau Gildas, le saint prêtre, pourrait marcher sur les flots. Les naufragés, leurs sauveurs, débarquèrent en même temps. M. Tanguy, d'ordinaire si alerte, les suivit avec une étrange lenteur. Puis à peine eut-il mis le pied sur la grève, qu'on le vit pâlir et chanceler en portant la main à sa poitrine. Ce fut Julia Morel qui le soutint et l'empêcha de tomber sur le sable, tandis qu'Anna accourut au-devant de son mari, saisissait avec anxiété le bras inerte du vieux prêtre et baignait sa main de ses larmes. Il ne nous reste plus que quelques mots à ajouter pour terminer cet épisode des dernières années de la sainte existence de M. Tanguy. Et c'est assez, si du moins nous avons réussi à donner une idée des œuvres aussi grandes que peu connues de la vie modeste de ce noble apôtre. Que d'autres au surplus qui, retirés dans les plus humbles retraites, répandent autour d'eux, sans bruit et sans renommée, des bienfaits des exemples pareils, et qui protègent leurs troupeaux contre les orages du monde, comme notre pasteur matelot arrachait le sien aux tempêtes de l'océan. Quelle belle vie et quelle belle mort! Les pêcheurs consternés emportèrent le prêtre évanoui. Les acclamations qu'ils avaient d'abord poussées à son retour se changèrent en gémissements. Julien était l'un des privilégiés qui portait le mourant. Anna marchait auprès de lui, essuyant de temps à autre la sueur froide qui coulait sur le front de son père bien-aimé. La douleur était peinte sur tous les visages de ces hommes bronzés à la mer. On parlait bas, on s'interrogeait avec tristesse. Un grand malheur semblait être dans l'air et planer sur l'île. Au presbytère, on déposa le malade sur son lit, son pauvre lit, qu'un indigent de nos jours n'eût guère trouvé supportable. Là, il reprit peu à peu connaissance, et trouvant dans les sanglots à peine contenus qui éclataient parfois autour de sa couche, une nouvelle preuve de l'attachement bien profond que l'île tout entière lui avait voué, le vieillard essaya de faire entendre encore quelques paroles de consolation. Hélas, tous comprirent que ce devait être les dernières, et tous, par un même sentiment d'amour, de douleur et de piété, se mirent à genoux autour de ce lit funèbre. « Mes enfants, leur dit le pasteur, en faisant un violent effort pour parler. Vos larmes m'annoncent que je vais mourir, et je sens là en moi-même que le moment est venu. Je ne regrette pas la vie, quoique vous me l'ayez rendue bien douce. Je ne regrette pas la terre, si mon maître Dei me donnait le ciel en échange. Ne pleurez pas, si vos larmes protestent contre la volonté de Dieu, mais qu'elles coulent en paix. Qu'elle coule longtemps sur la tombe de celui qui ne sut que vous aimer, si ce sont des larmes de reconnaissance et de résignation. Soyez toujours chrétiens, aimez-vous les uns les autres. Aimez Jésus-Christ, ajouta le prêtre mourant, en serrant sur sa poitrine haletante un crucifix. Implorez sa divine miséricorde pour moi, comme je la pleurerai pour vous. Oui, sachez vous aimer. C'est là tout le secret du seul bonheur que l'on puisse goûter ici-bas. Voyez, un homme qui naquit parmi vous, qui fut jadis votre parent, votre ami, oublia un jour ce divin précepte de la charité, et Dieu l'a puni. Jésus miséricordieux, ayez pitié de lui, ayez pitié de tous, ayez pitié de moi. Alors sa voix devint entrecoupée, sa respiration lente et oppressée. Anna, au comble du désespoir, appuyait le crucifix sur les lèvres glacées du mourant. Tous les marins, remplis d'une indicible consternation, répétaient à voix basse les prières des agonisants. Le soir était venu sur ces entrefaites, et l'ombre du crépuscule, en pénétrant dans la chambre mortuaire, augmentait encore la tristesse de ce cruel moment. Puis on entendit un sanglot, presque un cri déchirant. La femme de Julia Morel venait de tomber sans connaissance sur la terre, et l'âme du bon monsieur Tang était remontée dans le ciel. Villa Saint-Gouen, 7 avril 1869.